Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Et aujourd'hui, on a un acteur local, hein. On a Nathalie Glevarek, auteure et graphiste, qui vient nous présenter entre autres son roman « Derrière la vengeance ». Comment allez-vous ?
Je vais très bien, Jean-Philippe. Je vous dis bonjour à vous et bonjour aux auditeurs.
Merci beaucoup. Alors, on va passer une heure ensemble. On va vous découvrir votre univers, comment ça fonctionne aussi, parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui écrivent. Hein. Et d'abord, on va écouter le flash info national et international que la rédaction nous a préparé. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour avec Nathalie. Alors, on va commencer par vous demander un petit peu votre trajectoire personnelle, parce que bon, on parlera sûrement, il y a des trajectoires dits changement de direction, rebond, direction différente, et c'est toujours intéressant d'avoir une petite idée de la trajectoire des gens qui les ont amenés à mon micro.
Eh bien, je vais commencer par vous dire que je suis née à Bayonne. J'ai vécu mon enfance dans Lot-et-Garonne, à Marmande. J'ai fait des études à Anglette, au lycée de Canto. Moi, j'étais contente, j'étais revenue dans le pays où j'étais née.
C'est ça.
Voilà. Et puis après, ma vie professionnelle a été... j'ai fait pas mal de choses. Hein. Donc, j'ai travaillé comme dessinatrice industrielle en menuiserie aluminium dans Lot-et-Garonne. J'ai été maquettiste volumiste. Alors là, c'était... à Marraine, en Charente-Maritime. Je faisais des maquettes, mais pas maintenant en informatique, c'était avec mes doigts.
Un peu comme les archis
Voilà, je faisais des maquettes de maisons et d'accord. J'ai également fait des maquettes pour des musées, notamment le mémorial de Caen. Alors là, c'était gros avion échelle 1 d'un Typhoon qui est encore au plafond.
Ah oui.
Et ça fait 35 ans à peu près, qu'il est au-dessus.
Ah
et il bouge pas. Et j'avais fait les calculs d'ancrage, moi, et je sortais de Canto,
oui. Donc,
et c'est la seule fois où j'ai fait ce travail-là.
D'accord.
Et ça tient toujours.
Alors, voilà. C'est quoi comme matériau, d'ailleurs ?
Le Typhoon, oui. Il est en bois. Alors, c'est une ossature comme les bateaux, et ensuite recouvert de contreplaqué. On appelait ça la marque, c'était Saint-Offert, c'était du mastic, peinture, tout ça.
D'accord.
Enfin, c'était génial. Et puis après, on est arrivé dans les Landes. Pour le travail de mon époux. Et là, je me suis installée, moi, artisan d'art. Je faisais un petit peu de maquettes d'architecture, de la peinture sur verre, des choses comme ça. Ça m'a permis de pouvoir avoir un œil sur mes fils au niveau scolaire. Et puis, c'était... Alors, c'est vrai, professionnellement, c'était pas génial pour moi. Mais j'étais quand même dans le milieu artistique que j'avais pas pu avoir quand j'étais jeune, puisque c'était pas très sérieux, les beaux-arts.
Les parents, ils étaient...
Voilà, donc...
Être comédien, par exemple, c'était à l'époque où c'était une mauvaise nouvelle.
Oh voilà. Voilà, donc moi, je voulais faire les beaux-arts, sauf que c'était pour ma mère faire du porte-à-porte pour vendre mes croûtes, comme elle disait.
Ah oui.
Du coup, je suis partie dans le dessert, mais dessert en bâtiment, en canton, voilà, tout ça. Donc, j'étais revenue un peu là-dedans en étant artisan d'art. Et puis, quand les enfants étaient assez grands, tout ça, j'ai arrêté. J'ai fait un petit peu de tout, j'ai travaillé dans un magasin de bricolage, j'ai vendu des maisons, j'ai loué des appartements, enfin voilà tout ça, dans une agence immobilière. Et puis en 2011, après un licenciement, j'ai fait une formation PAO. Donc je l'ai fait à l'école d'art de Bayonne, j'étais contente, j'étais enfin dans une école d'art. Voilà, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. Ça a été galère pour trouver du travail chez quelqu'un, pour être à nouveau salarié. Et c'était la période, donc j'ai fait ça en 2011, cette formation. Et en 2015, j'ai découvert les salons du livre. Voilà, dédicaces d'auteurs, tout ça. Alors, j'étais déjà une grande lectrice, mais je n'avais jamais rencontré en vrai les auteurs. Et là, c'était un rêve, presque un rêve d'enfant aussi. Je me sentais redevenue très jeune, d'ailleurs, face à eux.
Ouais.
J'étais toute rougissante. Je bafouillais aussi. Et j'ai pris le pas. Donc, j'ai pris leurs livres. Ils me les ont dédicacés. Et ils m'ont demandé, ils m'ont dit « Oui, est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire ?» Donc j'ai fait quelques commentaires un peu comme on faisait les autres, mais comme je cherchais toujours du travail de graphiste, et puis il fallait que je montre mes capacités, il fallait aussi que j'évolue dans mon travail, notamment Photoshop. Et là, j'ai fait en image tout le ressenti du livre que j'avais lu. Et j'ai appelé ça une image de roman. D'ailleurs, c'est devenu un blog, image de roman. Et quand j'ai commencé à le diffuser donc sur Facebook, les auteurs étaient contents. Et en plus, ils avaient droit à une image, voilà, à ma sensation visuelle.
Oui.
Et là, tout le monde s'est à peu près dit, mais on croyait que c'était mon métier.
Mmh.
Et j'en ai fait, du coup, mon métier.
Et voilà,
voilà, donc c'est mon métier maintenant.
Mmh.
Voilà.
Et donc maintenant, vous êtes là aussi pour... l'écriture aussi, hein, vous êtes passé de... Alors je sais pas si c'est, comment dire, si c'est la suite logique, mais enfin ça correspond un petit peu à une partie de votre trajectoire.
Oui, alors je me pose la question et je sais pas si j'ai vraiment encore trouvé la réponse. Pour Obélix c'était facile, était tombé dans la potion magique.
Oui.
Donc moi je me dis que peut-être en étant dans ce milieu-là... La fois où on m'a demandé d'écrire un jour une nouvelle pour rendre service, je pense que ça a été logique que je dise oui, déjà par amitié par rapport à l'auteur Pierre Léoutre qui m'avait demandé donc d'écrire cette nouvelle. Et la nouvelle a été écrite, a été donc ensuite dans un recueil de nouvelles, a été éditée. Ça, c'était en 2019. Mon père l'a lu parce que je lui ai offert à Noël. Et le jour de ses 90 ans, quand on les a fêtés là, en mars 2020, début mars, il m'a dit, ouais, c'est super. Il me dit, mais t'en as pas mis assez. Alors, c'est sûr que la vengeance que j'avais créée donc, dans cette nouvelle, qui était juste que l'enquête, remontait à la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Et lui avait 9 ans à la Seconde Guerre. Donc il m'avait raconté des tas d'anecdotes, tout un tas de choses. Et c'est sûr que lui, c'était juste amorcé dans la nouvelle.
Oui.
Et là, j'ai dit, bon, mais j'ai fait plaisir à Pierre, je vais faire plaisir à papa. Bon, ça a été plus long pour faire plaisir à papa, parce qu'avec mon métier, le confinement, les auteurs ont écrit. Moi, j'en ai profité pour faire des choses à la maison, quand même. Et puis, je cherchais. Je ne savais pas trop comment m'y prendre non plus, parce que j'avais quand même mis du temps à écrire la nouvelle. Et c'est qu'en 2022, donc j'avais fait toutes les couvertures des auteurs qui avaient bien, bien, bien écrit pendant le confinement, que là, j'ai pu commencer en 2022 à l'écrire. Voilà.
C'est bien, c'est une histoire intéressante. Oui, d'ailleurs, je pense que votre père, à l'âge de 9 ans, ça doit ressembler un petit peu à un des personnages, peut-être, je peux l'imaginer à la place, un petit garçon à un moment donné. Je ne sais pas, peut-être.
Alors, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il n'y est pas à l'intérieur.
Oui.
Enfin, oui et non. Enfin, bon, voilà. Tel que vous le pensez, vous, il n'y est pas.
Oui,
il n'y est pas. Mais il y a certains personnages. Alors, comme c'était écrit pour lui, mais rien que pour lui à la base, il y a des personnages. Par exemple, il y a les intendants d'une demeure. Les prénoms sont le prénom de sa sœur, ses sœurs et de son beau-frère. Parce que lui, il était grande fratrie. Il était petit. Enfin, il avait déjà des beaux-frères, des belles-sœurs. Et sa sœur, qui était ma marraine, avec son époux, était intendant, mais dans le Médoc pendant la guerre.
Oui.
Donc, comme c'était écrit pour lui, j'ai voulu lui remettre des petites choses personnelles.
Ouais, d'accord, oui, je comprends bien. Voilà. Ouais. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Quand on fait quelque chose, on y met des choses et puis on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose dedans. C'est toujours...
J'ai découvert, mes premiers lecteurs m'ont dit, m'ont parlé de certains faits, par les personnages. Et j'ai dit, ah, vous l'avez vu comme ça. Et en analysant, j'ai dit, oh, bon sang, mais c'était pas voulu. J'ai trouvé même qu'ils arrivent à analyser le bouquin que moi je n'arriverais pas à cette analyse là.
Je crois que c'est le propre de toutes les œuvres artistiques, hein, musique, peinture, etc. On y met des choses, les gens y trouvent autre chose et en fait il y a tellement de visions différentes de la même chose. C'est la vie d'une œuvre.
Parce que ça m'est arrivé de tomber sur le site Envol, c'est un site de voyage, et j'ai vu il y avait un article sur mon livre. Alors je me suis dit, qu'est-ce que mon livre vient faire dans ce truc? Alors, je suis désolée parce que là, actuellement, j'ai oublié le nom du journaliste qui avait écrit. Il m'a fait un article magnifique. J'ai dû le lire 3 fois, moi, pour être sûre que c'était de mon livre qu'il parlait. Il en a fait une analyse et je me suis dit, mais c'est la plus belle analyse qu'il ait pu en faire. Et j'ai découvert des choses que j'avais mis, mais que je...
Voilà. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Alors, est-ce que le roman, c'est le style littéraire type pour vous, dans ce que vous avez envie de faire, ou vous pouvez faire aussi autre chose?
Alors, donc, comme je l'avais écrit, bon, je le redis, c'était pas pour qu'il soit lu par tout le monde, je l'ai écrit comme moi j'aime les lire. Alors, j'aime beaucoup lire des romans historiques. Mmh. Voilà. Alors, j'ai une auteure que... Alors là, c'est une passion, cette auteure. C'est Corinne Javelot, mmh. qui écrit donc, pour des grandes maisons d'édition et qui écrit du... Donc, c'est souvent des femmes fortes, mais qui, alors vraiment... Et à chaque époque... Donc voilà, elle, c'est ça. Donc, d'accord. cette partie-là, j'adore. Mmh. Et je pense que ça a dû m'aider... moi, dans l'écriture de la partie historique que j'ai dû faire pour le roman.
Oui.
Et ensuite, au niveau du... J'aime bien le fantastique. Là, il n'y en a pas à l'intérieur. On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Voilà. Et j'aime bien tout ce qui est thriller, polar.
Oui, oui.
Et on a des auteurs ici, dans le coin, qui sont vraiment fabuleux. Mmh. On a Serge Tachon. Alors... J'hésite un peu à donner les noms parce que je vais en oublier.
Oui, c'est ça, ouais, voilà. De peur d'en oublier. Hein.
Voilà,
ouais,
voilà.
Bien,
donc, Max Martim. Alors, c'est vrai que mon premier polar un peu humoristique, c'était Max Martim, avec Balles perdues à Molietz. Mmh. Après, j'aime bien aussi Alain Roumaniac, enfin, voilà, Yves Carchon. Enfin, voilà, je suis désolée si vous m'écoutez, je ne peux pas tous vous nommer.
C'est normal.
Mais voilà, tous les auteurs locaux de polar, je les ai suivis. Et certains m'ont aidé également quand ils ont lu mon manuscrit pour me donner des conseils sur le vocabulaire des gendarmes, voilà tout ça.
D'accord.
Et il y en a de ceux que j'ai cités qui m'ont poussé à ce qu'ils ne restent pas dans l'ordinateur.
Ouais.
Voilà. Et
d'accord.
Donc voilà, maintenant oui. tout le monde peut le lire.
Très bien. Ben, c'est le moment de faire notre première pause. On fait une petite pause musicale et on se retrouve ensuite parce qu'on a plein de choses passionnantes à écouter encore, je le sens. À tout de suite.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Voilà, on retrouve Nathalie Glevarek. Donc on a parlé à mot couvert d'un livre, on a bien compris qu'il y a un roman, donc on n'a même pas dit encore le titre. C'est Derrière la vengeance. Alors, vous inquiétez pas, je mettrai le podcast de l'émission, je mettrai bien entendu une photo de la couverture, d'une photo du livre. Vous allez forcément aller voir cette image, puisque c'est aussi une création de l'auteur, hein, puisque comme vous avez compris, Nathalie, vous avez raconté votre background, et donc on comprend bien voilà, que vous êtes graphiste, et voilà, c'est ce que je comparais comme auteur, compositeur, interprète, voilà, c'est-à-dire de faire l'ensemble, la création, puisque c'est par là que vous avez commencé, en fait, vous avez su quelle mettre l'image sur votre texte, évidemment.
Ben oui, puisque je le fais pour mes clients auteurs.
Voilà, donc à un moment donné, c'est pas comme le cordonnier, du coup, là, vous êtes bien chaussé.
Oui, à ce niveau-là, oui.
Ouais, voilà, c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de quoi ça parle ?
Alors, ça parle, donc, le titre déjà, Derrière la vengeance, veut dire qu'il y a une vengeance. Et cette vengeance, elle remonte à la Seconde Guerre mondiale et notamment sur un fait que l'on va découvrir dans le roman, qui s'est passé à la Libération. Donc de nombreux des lecteurs avec qui j'en discutais m'ont dit c'est vrai, il y a eu énormément de choses qui se sont passées à cette époque-là. Donc moi j'en ai choisi une, je l'ai inventée mais elle a dû être, je pense, nourrie par des films que j'ai dû voir, par des livres que j'ai dû lire et par des choses que mon père m'a racontées.
Oui.
Voilà. Donc tout commence, c'est une femme qui part, qui fuit. Saint-Vincent-Tyros avec son fils qui a 5 ans, c'est vital, il faut qu'elle parte absolument. Donc elle s'en va. Donc ça sera la partie du prologue. Le premier chapitre, nous sommes au cimetière de Saint-Vincent-Tyros pour les obsèques du président de la Amicale des chasseurs.
Voilà.
Et les obsèques se terminant, l'ancienne institutrice Denise Grabeau décide de partir avant qu'il y ait la cohue. Et elle s'aperçoit qu'il y a deux gendarmes à la sortie sur le portail de la sortie du cimetière. Et elle reconnaît une de ses anciennes élèves, qui est devenue major et qui revient travailler à la gendarmerie de Tyros.
Voilà.
Et là, depuis quelque temps, elle a des petits doutes sur ce qui se passe sur des accidents de chasse.
Et oui.
Et elle va lui simplement leur dire en partant que les 4 accidents de chasse en 5 ans,
c'est peut-être
un petit peu trop.
Ouais.
Et là, du coup, ils sont déjà en enquête donc pour homicide involontaire et ça va devenir une enquête d'homicide volontaire.
Ouais. Alors c'est vrai, il faut préciser que ça se passe en 2017, la partie...
Il
y a deux époques.
Il y a deux époques, voilà. Ça commence en 1947, donc avec ce départ. Mais... pendant les parties historiques, alors il y a les parties historiques et la partie des enquêtes qui vont s'intercaler jusqu'à se rejoindre pour donner une petite explosion, je dirais. Mais on pense savoir des choses et en fin de compte, on ne va pas vraiment savoir puisque il y a mon curé Tirosé, il est basque et lui il va intervenir à un moment. Donc, avec l'intervention de ce curé, on va partir un petit peu avant 1947.
D'accord.
Où plein de choses vont être dévoilées, aussi bien pour les gendarmes que pour le lecteur.
Très bien. Alors, je vous avais demandé la possibilité de vous livrer un petit exercice, parce que quand je reçois des artistes, ils interprètent une partie de les œuvres, et donc je me disais que c'était quand même bien qu'on puisse vous entendre lire quelques lignes que vous avez écrites, pour que, voilà, je pense que c'est une interprétation en direct, un live, comme on dit.
Tout à fait. Ben, écoutez, on va commencer par le début, on va se faire le prologue.
Allez.
Voilà. Saint-Vincent de Tyros, le 27 juin 1947. Marthe se réveilla en sursaut. Encore ensommeillée, elle percevait des chuchotements et des pas feutrés. Les volets de la chambre n'étant pas fermés, ses yeux s'habituèrent rapidement à la pénombre. Intriguée, elle se leva et ouvrit délicatement la porte. Le couloir était sombre et le sol glaçait ses pieds nus. À tâtons, elle se dirigea vers la chambre de sa fille. Par l'entrebâillement de la porte, elle la vit dormir à poing fermé. En partie rassurée, Marthe s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'elle entendit un cliquetis dans l'entrée. À pas de loup, elle se dirigea vers le vestibule. Elle calcula son trajet. En passant par la cuisine, puis le petit salon, le parcours serait plus aisé, donc plus rapide. Connaissant la maison comme sa poche, Marthe évita les lames de parquet qui grinçaient habituellement. Elle s'arrêta quelques secondes dans la cuisine, tendit l'oreille. Le silence régnait. Près de l'horloge comtoise, elle remarqua les aiguilles qui indiquaient 5h41. Elle ramassa le tisonnier dans la cheminée. Les chuchotements avaient cessé. Elle continua son discret déplacement jusqu'à la porte d'entrée. Le loquet était rabattu, mais la serrure n'était pas fermée à clé. En tremblant, Marthe plaqua son dos contre le mur. Elle tourna la tête vers la gauche et glissa doucement jusqu'à la fenêtre. Elle jeta un bref coup d'œil vers l'extérieur et vit un mouvement dans l'allée. Elle prit une grande inspiration puis regarda à nouveau. Elle sursauta. Deux silhouettes se dirigeaient vers le portail. Aidée par la clarté de l'aube naissante, Marthe identifia Madame et son fils, chacun une valise à la main. À son fort intérieur, Marthe s'indigna. Mon Dieu, pourquoi partent-ils sans prévenir ? Elle eut envie de sortir et de courir pour les rattraper, mais son corps resta figé. Ses yeux s'embuèrent et une larme perla sur sa joue. Elle avait encore tant de choses à dire à Madame. Elles avaient partagé tant d'épreuves. Marthe se sentit soudain abandonnée et désemparée. Les deux silhouettes s'approchèrent du grand portail. La femme se retourna vers ce qui fut sa demeure. Elle se doutait que son attitude allait peiner Marthe, sa gouvernante, mais elle ne pouvait pas la mettre dans la confidence. La prudence était de mise et les adieux trop durs à supporter. La femme n'avait plus aucun espoir, son existence n'avait plus de sens. L'anniversaire du drame était le lendemain et surtout elle ne voulait pas vivre la vie qui lui était soi-disant servie sur un plateau. Foutaise! Espérant soulager sa conscience, elle dit mentalement adieu à Marthe. Sans oublier ses parents, elle ne les avait pas prévenus de son départ. Sans bruit, elle ouvrit le grand portail de fer forgé. Résolument, elle prit la main de son fils silencieux et serra plus fort sa valise. Elle ne devait absolument pas changer d'avis. Elle referma derrière elle la grille froide. Les deux s'engagèrent sur le chemin bordé de pins, celui de la liberté. Du moins, le souhaitait-elle.
Merci beaucoup. Alors, je l'avais déjà lu, ça, bien entendu, parce que j'ai le livre entre les mains depuis quelques temps. Et effectivement, ce phénomène, on va en parler après cette pause, mais ce phénomène se produit à chaque fois. Quand vous le lisez aussi, c'est que les images défilent dans notre tête quand on entend les descriptions, on voit très bien la fenêtre, la cour, les gens, le mobilier, etc. Voilà, ce phénomène est vraiment un peu magique, hein, même s'il n'est pas vraiment, en fait, c'est humain, mais on retrouve ça et c'est très chouette. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on fait notre première pause et on va pouvoir parler ensuite un petit peu de tout ça parce que c'est vraiment très chouette. On va écouter le Flash Info local et on se retrouve après. Merci beaucoup pour cette lecture. Hein. Bon, voilà, c'est vraiment chouette d'entendre l'auteur lire lui-même de sa propre bouche, ses propres mots. Voilà, c'est toujours intéressant. Et donc voilà, le début, on voit bien cette histoire de... Il y a quelqu'un qui s'en va... Et puis voilà, ça, là, ça se passe, cette scène-là se passe en 47. Hein.
Voilà, le 27, alors la date est importante, le 27 voilà. juin 1947.
Ouais, d'ailleurs, est-ce que le chiffre 7, c'est un chiffre qui a une signification particulière pour vous? Je l'ai retrouvé plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que c'est une occurrence aléatoire ou pas?
Non, alors là, bon, 1947, c'était parce que, bon, il fallait que ça soit à cette époque-là. Après 2017, c'est juste parce que dans la nouvelle, c'était en 2019. Et puis, quand j'ai fait le roman, je me suis dit, oh mince, Denise, ça fait... Alors, j'ai pensé qu'en mettant 2017, 80 ans, c'était bien, oui. parce que moi, je la voulais en forme, dynamique.
D'accord.
Puisque, hein. voilà, elle fait plein de choses. Voilà, elle va dans le charia avec le troisième âge.
Voilà, oui.
Voilà, elle fait tout un tas de choses. Donc, je la voulais en forme.
Alors moi j'ai une petite question donc sur le voilà ce que j'ai constaté des choses que j'ai vues c'est toujours intéressant d'avoir la personne en face pour lui demander bien sûr en faisant bien attention à ne pas spoiler alors je sais pas quel est le terme français.
Ben moi non plus.
Divulguer.
Oui.
Allez,
ah oui. Voilà.
Divulguer c'est pas mal. Ouais. Ouais, voilà. Non parce que bon, j'utilise comme tout le monde beaucoup d'anglicisme mais bon.
Ouais, c'est ouais, bien.
Voilà.
Divulguer.
Ouais, divulguer. Allez. Et donc alors il y a un gendarme qui s'appelle Lestrade.
Oui.
Moi de suite. J'ai pensé à Sir Arthur Conan Doyle, l'inspecteur, qui est le copain, on va dire, du fameux héros. Je suppose, j'imagine, il y a un lien ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout. Parce que moi, dès que j'ai vu Lestrade, je me dis, ah ben oui, Lestrade.
Non, non, parce que dans la nouvelle, j'avais mis des... Alors, dans la nouvelle, Alain s'appelait Alain Rouma, parce que c'était un auteur qui écrit des polars, qui était gendarme. Et donc, j'avais juste pris un petit morceau de son nom. Et quand j'ai écrit le roman, ils m'ont dit, non, non, essaie de trouver des noms locaux, qui fassent local.
Ouais.
Et c'est pour ça, Lestrade, c'était un nom que j'aimais bien, que j'avais dû entendre dans le coin quand j'ai mis ça, voilà.
Et du coup, ça m'a fait penser à l'inspecteur dans...
Eh ben non.
voilà.
Mais c'est très bien, mais c'est génial. Ouais. c'est génial.
Et oui. Et aussi, alors j'ai des petites questions, alors vraiment, sur la forme technique, hein, c'est vraiment des questions, parce que, voilà, je suppose que vous connaissez forcément mieux que moi les règles. J'ai remarqué que des fois, vous avez, notamment sur la page 16 et 17, vous avez des mots en italique. Il y a Sonaille, Faucon, Eberot et Pichou.
Voilà.
Pourquoi vous les avez-vous mis en italique? Est-ce que c'est une règle que j'ignore ou est-ce que c'est
alors,
un choix?
Ce sont pas des noms très connus. Donc moi, ce que j'ai voulu quand j'ai fait ce roman, c'est apprendre des choses au lecteur, que ce soit des choses sur des mots ou des choses sur des événements.
Ouais, ouais.
Et donc voilà, c'était un petit rappel, un peu comme le dictionnaire. Quoi. Ouais, c'est-à-dire, j'ai expliqué ce que voulait dire le mot. Puis pitchoun, tout ça, c'est des mots qui sont quand même gascons.
Un petit peu, oui.
Donc tout ce qui était vraiment pitchoun, du terroir, parce que, bon, c'est sûr, pour l'instant, le livre, il est surtout lu par chez nous. Hein, voilà, parce que j'ai rencontré beaucoup de lecteurs déjà.
Ouais, ouais.
Mais je pense que comme il est vendu également sur les sites de vente, tout le monde n'est pas hollandais. Hein.
Ah ben bah non, il ça, paraît.
Voilà.
Incroyable.
Voilà, incroyable. voilà. Donc il faut un petit peu expliquer aux gens. Il n'y a pas que le mot chocolatine chez nous.
Ah non, non, non c'est sûr.
Il y a pitchoun, il y a tout un tas de choses.
Ouais, c'est vrai. Et oui, alors moi j'ai relevé, là c'est pas vraiment une question, mais j'ai relevé une phrase. Voilà, ça arrive des fois, quand on lit, tac, il y a une phrase, on dit, ah, il y a quelque chose, voilà. J'ai bien aimé cette phrase, c'est à un moment donné, les gens, les chasseurs, ils pensent beaucoup et il y a une phrase qui dit une friction de neurones à l'état pur, comme seul l'être humain est capable d'en avoir. Page 38 d'ailleurs, pour être très précis.
Oui.
Et bien, j'ai trouvé cette phrase chouette. Et du coup, l'image était tellement, effectivement, ce friction de neurones. Je l'ai bien visualisé. Je trouvais que c'était ça m'a plu, cette phrase. Voilà.
Et oui, elle m'est venue comme ça parce que j'avais envie de dire que c'était une façon élégante, je disais, humoristique, d'expliquer que les gens voilà.
C'est la prise de tête. Enfin, c'est la définition littéraire de la prise de tête.
voilà.
Entre guillemets, ouais.
Non, c'est vrai que moi aussi, quand je l'avais une fois écrit le truc, j'ai dit parce que j'aime bien quand il y a un petit peu d'humour aussi dans les livres. Voilà.
On en revient encore à ce dont on parlait tout à l'heure et aux antennes. On parle toujours d'image souvent. Employer une image, même quand on écrit. Il oui. y a quand même un lien voilà, inaltérable, indéfectible entre l'image mentale et le texte écrit. Hein. C'est quand même quelque chose. Alors, ça doit porter un nom. Je ne suis pas spécialiste en neurosciences, mais il y a vraiment ce phénomène-là de faire apparaître des images dans sa tête pendant qu'on lit. C'est assez remarquable. Je pense que, et puis, c'est souvent, je pense, un gage de qualité d'écriture, hein, ce chemin. Plus le chemin est court entre ce phénomène, enfin, entre ces deux moyens, ces deux sens, plus je pense c'est une preuve de la qualité de l'écriture. Enfin, c'est un avis personnel.
Ah, mais c'est un très bel avis, merci beaucoup. Voilà, il y en a qui parlent de quand ils font des chroniques littéraires comme ça, ils parlent d'écriture cinématographique.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on lit la phrase, on voit tout de suite.
Voilà. Oui, oui, oui.
Et alors, bon, si j'arrive à écrire comme ça, ben, je suis très, très contente oui. parce que moi, j'adore le lire chez d'autres auteurs. Et ce qu'il y a, c'est que il y a certains passages, quand je les ai écrits du roman, notamment le fameux prologue que je viens de vous lire, c'est que je l'ai imaginé dans ma tête. Hein, en fermant les yeux, j'ai essayé de voir. Bon, moi, dans les Landes, je vois très bien les chemins sablonneux que nous avons.
Oui.
Et après, j'ai essayé de trouver, moi, les mots qui allaient avec la vision que j'ai eue. Alors, je trouve que ça a été assez facile quand même, et je pense que ça vient de mon travail de graphiste.
Et oui.
Puisque moi, à l'inverse, dans mon travail de graphiste, je lis des textes et j'en crée une image. Et je suis même un peu, j'ai été surprise au début de voir que dans l'autre sens, ça marchait bien aussi.
Et bien oui, c'est ça, c'est le même chemin mais à rebours. Hein. C'est, ouais. Voilà, ouais,
c'est voilà, ça, je me suis épaté.
Ouais. Après, c'est bien de. Bon, j'en parle parce que, voilà, des fois, je fréquente des jeunes, etc. Bon, on sait que souvent, on tape sur les jeunes, ils ne lisent pas assez, ce qui est probable. Mais ça, c'est aussi pour les encourager qui se disent qu'en fait, on a parlé de l'impression de prise de tête qui n'est pas très jolie, mais que la lecture, ce n'est pas forcément une prise de tête. On ne va pas ramer pendant deux heures à déchiffrer lentement du texte. À un moment donné, quand on devient un lecteur un peu plus expérimenté, se produit ce phénomène. Hop là, c'est un train qui est lancé et il n'y a plus de peine, il n'y a pas de douleur. C'est que du plaisir, la lecture. Voilà.
Ouais, et on devient le producteur de son film, voilà, qu'on se fait dans sa tête.
Voilà.
Parce que quand, par exemple, on parlait tout à l'heure du Seigneur des Anneaux, moi j'ai lu le livre, après ils ont fait le film, et le film est très bien par rapport au livre, moi c'est ce que je pense.
Ouais, ce qu'on pensait,
mais ça, quand on lit ce genre de d'écrit, eh bien, on a sa propre imagination. Ouais, le producteur, le réalisateur, enfin tout ça... Eh ben, ils ont fait que retransmettre en image la sensation, l'émotion qu'ils ont eue dans la lecture.
Oui, tout à fait. Ouais. En plus, je pense que c'est meilleur pour le cerveau d'être actif plutôt que passif. C'est-à-dire regarder tout le temps des images qui viennent d'un écran. C'est des images qu'on génère dans notre tête. Donc là, on est vraiment acteur et pas...
Voilà. Et elles ne sont pas uniformes à tous.
Ah ben non, c'est pas possible.
Vous avez lu le prologue. Moi, je l'ai écrit, je viens de le lire.
Oui, oui.
On n'a pas la même vision. J'ai ma vision, moi, de mon chemin sablonneux, tout ça. Vous avez le vôtre, parce que bon, on n'est pas allé au même endroit. Voilà. Et puis, ceux qui ont écouté, voilà, les auditeurs qui ont écouté, ils ont eu aussi leur propre image.
Oui, tout à fait.
Et puis, selon les âges aussi.
Oui. Ah ben, c'est
les anciens, voilà, les auditeurs qui ont dans les 70 ans, 80 ans.
Ils ne vont pas voir le même mobilier dans la pièce, par exemple.
Voilà, ils ne vont pas le voir le même. Et puis, ils vont avoir une autre sensation du départ, là, que je viens de lire. Et les jeunes, les plus jeunes auditeurs, ont leur vue, eux, peut-être avec une planche de surf.
Oui, voilà.
Voilà, je sais pas.
Oui, c'est possible.
Voilà.
Et c'est le moment aussi de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est une question simple avec une réponse plus compliquée. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit un roman? Comment ça se passe? Il n'y a pas de recette, mais vous avez une technique, c'est-à-dire c'est des notes qu'on prend pendant des années et tout à coup on met tout ça, ou alors on dit bon allez je vais faire un plan, je fais un schéma. Comment est-ce que vous procédez pour faire cet exercice?
Alors je démarre par la nouvelle parce que c'est ça qui a fait que j'ai pu après écrire le roman. Pour la nouvelle, ça a été qu'est-ce que je vais prendre. Il fallait que je fasse une nouvelle sur une histoire de police, voilà, avec une enquête, tout ça, c'était obligatoire, ça devait en plus se passer dans le Gers. C'est pour ça qu'après j'ai tout ramené dans les Landes. Là je me suis dit au départ je savais qui avait tué, qui était le meurtrier, qui était tué. avec quelle arme ils avaient tué, mais je ne savais pas comment les gendarmes allaient le savoir.
Oui.
Donc j'ai poireauté, j'ai écrit, machin, ben, ça a duré peut-être un mois. Puis après je me suis dit non, Pierre, il compte sur toi, vas-y, il faut que tu le fasses. Et j'ai commencé à écrire. Alors dans la nouvelle, c'est le premier chapitre du roman.
Oui.
Donc Denise, elle est là, elle est dans le cimetière, machin. Tout. Et alors je commence à écrire l'enterrement, il pleut, machin, tout ça. Et puis, Denise Grabeau, institutrice retraitée, nana, je finis la phrase et là, je me dis, mais c'est qui elle ? Parce que j'avais quand même noté mes personnages, j'avais...
Ouais.
Je dis, mais je cherche dans mon carnet.
Elle n'y était pas.
Elle n'y était pas.
Ah, oui.
Et surtout que le nom est arrivé de suite. Mmh. Je connais personne qui s'appelle Grabeau. Denise, oui, j'en ai connu, mais...
Oui, oui.
Et là, et après, tout s'est... Ça s'est ouvert, quoi. C'est, après, tout a fonctionné, machin, jusqu'à la fin du chapitre 1. Et voilà. Ça a été pour la nouvelle. Pour le roman, donc cette partie-là a dû être retravaillée, réétoffée, dramatisée aussi à un certain moment, qui n'était pas donc du coup dans la nouvelle, et créer toute la partie historique. Et la partie historique, j'ai commencé, les personnages, qui c'est que je vais mettre, tout ça. Bon, après, comme c'était pour mon père, je me suis amusée, donc, comme je disais, à mettre les prénoms de gens qu'il avait connus, tout ça.
Bon, c'est intéressant à savoir.
Et voilà. Et après, la partie là, qui était un peu qui n'était pas évidente pour ne pas perdre le lecteur et se perdre d'abord soi-même en écriture, c'était comme j'ai voulu faire un passage qui était historique et passage d'enquête.
Oui.
Voilà, en les intercalant. Il faut
s'organiser là.
Voilà, il fallait vraiment être organisé.
Ouais, ouais.
Donc il y a eu, quelques écritures sur le côté pour l'organisation de tout ça.
D'accord. Ça va être le moment de faire notre dernière pause. Bon, on aura encore un petit peu de temps parce que moi, j'ai encore des questions à vous poser. On n'aura jamais assez de temps pour tout poser. Bon, mais prochain roman, vous revenez.
Ok.
À tout de suite.
Avec plaisir.
Et voilà, nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Donc, moi, je trouve que c'était vraiment très intéressant. J'aimerais savoir comment ça se passe, le retour de vos lecteurs. Alors, est-ce que vos lecteurs, vous les rencontrez essentiellement dans les séances de dédicaces, puisque vous en faites, évidemment, comme beaucoup d'écrivains, ou alors vraiment vous avez une correspondance, on va dire, par les réseaux sociaux, par email, des gens, des retours, j'aimais votre livre, des questions, voilà, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une dynamique ?
Eh bien, un petit peu tout ça. Là, j'étais le past week-end, mais le week-end d'avant, j'étais au salon du livre du Leclerc de Tyros. Et là, des lecteurs qui m'avaient vu le 8 mars, mais là, j'étais toute seule à ce moment-là, qui m'avaient pris mon roman, sont venus m'en donner de leurs nouvelles. Alors, c'est vrai qu'ils sont contents. Ils ont bien aimé. Ils veulent savoir s'il va y avoir une suite. Alors, j'ai dit non, parce que pour moi, ça s'arrête là, ce roman-là. Mais est-ce qu'on va retrouver mes gendarmes? Alors, c'était pas prévu pour le prochain, mais je pense que je vais au moins en englober un ou deux.
Ça pourrait devenir une série policière, ça.
Alors, j'adore lire. Alors, j'adore lire quand des romans policiers comme ça où on retrouve les mêmes enquêteurs. Mais pour l'instant, je sais pas si je serais capable de le faire.
Oui, d'accord.
Voilà, j'ai trop envie maintenant que je vois que je peux écrire des choses, un roman qui était intéressant et qui, pour mon père au départ, mais qui intéresse beaucoup de lecteurs, j'ai envie moi de faire encore plein de choses. Alors ils me disent à ces moments-là sur Messenger, puisque je suis sur Facebook, donc sur Messenger, ils font des retours. Après, l'article que je vous ai dit sur Envol, ou alors j'ai mes toutes premières lectrices, j'avais dans mes copines de l'aquagym d'Aigle Blou.
D'accord.
Qui, alors voilà, donc on est dans les vestiaires et puis elles me disent ce qu'elles en pensent.
C'est sympa.
Voilà, pour l'instant, tout le monde est content. Donc moi, ça me donne vraiment du punch là, pour le prochain. Là. Et ça, il est bien en route.
Ah, très bien, voilà. Alors moi, j'ai une question aussi, parce que dans un roman, etc., il y a une chose qui est importante, c'est les personnages. Il y a des personnages. Donc vous inventez des personnages, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'existe pas, des fois chez les écrivains, une sorte de culpabilité de le ranger dans un tiroir, comme si on avait créé un être vivant, qu'on l'enfermait dans une cage et qu'on a envie de le faire revivre, on se sent coupable de ne pas le faire revivre, de l'abandonner quelque part. Est-ce que ça existe, ce sentiment, par rapport à un personnage qu'on a inventé ?
Alors, c'est mon premier roman, donc c'est pas évident pour vous répondre, mais là, honnêtement, je ne me suis pas encore posé la question. Voilà.
D'accord, donc le problème, c'est pas encore posé, mais ça va venir, je le sens, parce que vous allez écrire d'autres choses.
Oui.
C'est bien, ça.
Oui, 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 c'est en route. Là.
Ah oui, alors oui. Alors c'est prévu pour quand ?
Alors,
éventuellement.
Si bon. Tout se passe bien, ça serait bien que, parce que celui-ci est sorti donc en novembre 2024, ça serait bien que le prochain sorte en novembre 2026.
D'accord, c'est
voilà. C'est honnête parce que bon, je pas que ça à faire de l'écriture. Alors il y a des fois, j'ai passé il y a pas longtemps toute une semaine l'après-midi à écrire tout ça. Et puis là, bon, ça fait 3-4 jours que j'ai pas touché quoi. Donc
d'accord.
Mais voilà, donc j'essaie de tout faire parce que moi, ce que je vais essayer de faire également, c'est de le laisser reposer pendant 3-4 mois avant de le reprendre pour de tout le relire parce que là, ça sera les corrections que je penserai être finales. Et puis après, ça sera faire lire un petit peu des personnes qui m'entourent et pas forcément qui sont de ma famille parce que c'est, voilà, ils trouvent trop souvent que c'est trop bien, donc voilà.
Oui, voilà oui.
Et après, il va y avoir la correction, et puis moi, après, je vais m'occuper de la couverture, du teaser, et parce que voilà, on peut voir le premier teaser aussi que j'ai fait. Enfin, voilà,
ah, c'est bien. Ça. Et alors, au niveau actualité, je crois qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt, là.
Voilà, alors, actualité, la plus rapide, ça sera samedi prochain. Samedi prochain, on sera le 28, et je serai de 10h à 18h à la FNAC de Dax.
Voilà.
Voilà, ça sera ma première sortie FNAC, là-bas.
Donc, les gens...
Après l'été, juillet, le 21 juillet. Alors, deux prévus déjà, 21 juillet, Maison de la Presse à Souston, de 10h à 12h15. Et la même chose, même horaire, mais le 18 août aussi. Et après, il y aura le 24 août, le salon au lac de Léon. Alors là, c'est génial là-bas.
Oui, le cadre est sympa.
Ouais, en tant que visiteuse, je le connais. Visiteuse, je passe toujours de très bons moments. Et là, ce sont des auteurs vraiment locaux. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est inventé, il faut aller là-bas.
D'accord. Ben, je crois qu'on va se quitter sur ça. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous parler de ça, de vous faire partager votre univers et nous donner bien évidemment l'envie quand même de lire, de découvrir ce qui se passe derrière cette introduction qu'on a eue. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent et des endroits différents et des époques différentes. Voilà, donc,
Mais tout ce que j'espère, moi, c'est que les lecteurs éprouvent autant de plaisir à le lire que moi, j'ai pris plaisir à l'écrire. Alors, je l'ai pris plaisir, c'est vrai, c'était un peu égoïste. C'était que pour mon papa au début. Mais maintenant, je sens que... Il est apprécié et puis
il prend sa vie.
Je lui souhaite qu'il continue encore une bonne route.
Très bien. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Au revoir.
Au revoir.